Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Si ma mémoire est bonne. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un personnage qui a suscité un nombre incroyable d'études, d'analyses, de dénigrements, de louanges. Je veux parler de Joseph Staline. On va commencer par le commencement, si vous voulez bien. Joseph Staline est né le 18 décembre 1878 à Gori, en Géorgie. À l'époque, c'était le 6 décembre, puisque l'Empire russe vivait sous le calendrier julien. Et, premier mystère, il y en aura de nombreux dans la vie de Staline. Ce dernier a affirmé par la suite qu'il était né le 25 décembre 1879, c'est-à-dire pratiquement un an plus tard. Pourquoi ? Personne n'a jamais su vraiment. On a donné des tas d'explications plus ou moins fantaisistes. Enfin, on sait à coup sûr qu'il est né le 18 décembre parce qu'on a retrouvé son nom sur les registres de naissance. Il est né à Gori, je vous l'ai dit tout à l'heure, et parmi la quarantaine de pseudonymes qu'il a eus, il y en a deux qui sont restés avant qu'il devienne Staline. Soso, d'après Joseph, et Koba. Koba, il a gardé assez longtemps ce pseudo. C'est un héros populaire géorgien. Et il est né, et ça c'est, je pense, très important. Il est né dans la famille d'un cordonnier qui était alcoolique, qui a d'ailleurs rapidement abandonné la famille. Et en réalité, il a été élevé par sa mère qui était couturière. Et à l'âge de 10 ans, il est entré au séminaire. Pourquoi en a-t-il été exclu? Là aussi, on retombe dans les bruits de couloirs, dans les vengeances. Lui a toujours dit qu'il était parti à cause de ses activités révolutionnaires. Beaucoup ont dit qu'il était parti parce que il a eu quelques aventures sentimentales qui ne correspondaient pas tout à fait aux objectifs d'un élève du séminaire de Gori. À quoi ressemblait-il physiquement ? Il n'était pas très grand. Il était, par exemple, on le sait, il était beaucoup plus petit que Lénine. Ce qui est étonnant, enfin, étonnant non, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que lorsque, par la suite, au moment où Staline régnait sur le RSS, on a peint beaucoup de tableaux où on le représente avec Lénine, et chaque fois, le peintre s'est arrangé pour que Staline ait l'air plus grand en taille que Lénine. Il avait une voix faible, monocorde, prodigieusement ennuyeuse. Il avait un russe assez laborieux. Tous les intellectuels russes en riaient sous cap, mais évidemment, ils ne se seraient jamais amusés à le dire ouvertement. Il a eu, à l'âge de 12 ans, il a eu un accident et c'est la raison pour laquelle il avait le bras gauche atrophié. Vous ne verrez jamais cela sur les photos ou dans les films qui ont été tournés avec Staline lui-même. Et, petit détail, il portait des bottes à semelle renforcée pour avoir l'air un peu plus grand. D'ailleurs, vous remarquerez sur les photos, lorsqu'il est avec Roosevelt ou avec Churchill, les trois personnes sont rarement debout. Et lorsque celui qui n'était pas Staline, qui va devenir Staline en 1907, lorsque Staline a quitté le séminaire, il a eu une activité de raquette. Alors, lui a dit, et tout le monde a répété, évidemment, à l'envi, lui a dit que c'était pour la Révolution, pour le bienfait de la Révolution. Il a adhéré, c'est vrai, assez tôt au parti des bolcheviks. Certains ont dit que, en fait, ce n'était jamais qu'une petite crapule de pas très grande envergure. Quoique, en 1907, il a braqué la banque de Tbilissi et ça a fait beaucoup de bruit. Une chose intéressante, en 1906, il épouse Ekaterina Svanidze. Apparemment, il était très amoureux de sa jeune femme. Malheureusement, cette dernière est morte en 1907. Ils ont été mariés à peine, même pas 2 ans d'ailleurs. Et beaucoup de témoins de l'époque ont dit que c'est à partir de la mort de sa première épouse que Staline avait perdu toute humanité, comme si la disparition de sa jeune épouse avait tué en lui les capacités d'amour pour une femme et pour une famille en général. Revenons-en maintenant un peu à l'époque de la Révolution de 1917. Donc, rappelons brièvement que Lénine est rentré à Petrograd, ancien ordre de Saint-Pétersbourg, avec la complicité intéressée des autorités allemandes, et effectivement, ça a permis au parti bolchevique de prendre le pouvoir. Et Staline, petit à petit, va devenir un membre important du comité central du parti bolchevique. C'est ainsi qu'en 1922, il devient secrétaire général du comité central. 1922, c'est une date importante parce que, évidemment, personne n'en parlait, mais Lénine était pratiquement à la fin de sa vie. Il avait déjà eu une attaque cérébrale, il était assez diminué, il va disparaître le 21 janvier 1924, mais ça faisait déjà plusieurs années qu'il n'avait plus aucun rôle au sein du parti bolchevique. Pourtant, dans un éclair de lucidité, Lénine a écrit ce qu'on a appelé un peu pompeusement le testament de Lénine. Et il conseille aux camarades du comité central du parti bolchevique d'éloigner Staline. Qu'est-ce qu'il lui reproche? De l'instabilité, de l'intolérance, un manque de loyauté pour ses collègues et l'impolitesse. Au passage, cette impolitesse se réfère à un incident très réel. Une fois, Staline a insulté de façon plus que grossière Kourbskaya, qui était l'épouse de Lénine, et Lénine a exigé que Staline fasse ses excuses. Par la suite, après la disparition de Lénine, Kourbskaya se le tiendra pour dit et ne jouera plus qu'un rôle très secondaire dans la vie de l'URSS. Alors, dans ce comité central, parmi les gens qui ont fait la révolution, il y en a un dont on a beaucoup parlé et dont l'aveuglement reste aujourd'hui encore assez inexplicable, c'est Trotsky. Trotsky, c'est quand même lui, avec Lénine, qui a fait la révolution. C'est lui qui dirigeait l'armée rouge, c'est lui qui a mené les combattants. Il avait une personnalité éblouissante, brillante. Et avec Staline, on peut dire qu'il n'a rien compris. Jusqu'à ce que Staline réussisse à l'éliminer, à le faire expulser du RSS en 1929. Il a eu de la chance, si on peut dire, parce que lui n'a pas été exécuté comme d'autres membres du comité central. Et ce qui est étonnant, c'est que Trotsky n'a rien compris, du début à la fin, n'a rien compris à la personnalité de Staline. Il s'est entêté à vouloir voir en lui une personnalité médiocre, quelqu'un d'inculte, ce qui est faux. Staline n'était pas un culte. Et il a cru jusqu'au bout que Staline n'avait pas vraiment la personnalité nécessaire. Staline lui a prouvé abondamment que ce n'était pas le cas. En attendant, Staline met en place un système qu'il va rôder tout au long de son règne. Il domine les institutions administratives. Il donne les postes de direction à qui lui chante. Il crée toute une caste de fonctionnaires qui, finalement, sont ceux qui vont tenir le pays. Ce que les Russes appellent la nomenclature. Et surtout, il met en place un système de police politique dont l'efficacité s'affirmera au fil des années. Je vous propose une première pause musicale. ce système politique, ce système de police politique, ce qu'on appelle couramment le KGB, qui a eu plusieurs noms, le NKVD, la GPU, la Tcheka, c'est un système qui va jouer un rôle primordial dans les grandes purges qui vont suivre. Et petit à petit, Staline va commencer à éliminer tous ses rivaux. Bon, d'abord, il s'est débarrassé de Trotsky, c'était le plus encombrant, c'était le plus populaire, le plus connu, sans doute. Déjà, à l'époque, certains, sans oser le dire, ils l'ont affirmé par la suite, est-ce vrai, je n'en sais rien, mais certains avaient décelé une forme de paranoïa chez Staline. Alors, parmi ses rivaux les plus importants, il y a Zinoviev et Kameniev en 1936, Boukharine. Très vite, à l'étranger, quelques personnalités vont se rendre compte de qui était vraiment Staline. Mais personne ne va les écouter parce que, parce que ça arrangeait beaucoup de gens de croire à Staline. Il y a Boris Souvarine en 1935, il y a André Gide avec son retour de voyage du RSS. Il y a Arthur Koestler, l'écrivain, qui pendant un temps a adhéré au communisme puis ensuite a réalisé que... Et ce qui est étonnant, c'est que Staline, en s'en prenant à ses adversaires politiques, n'épargne pas sa propre famille. La famille de sa première épouse, ses beaux-frères, belles-sœurs, etc., vont souvent finir dans des camps. Sa deuxième épouse, Nadiejda Alilouyeva, meurt en 1932. Peut-être avez-vous l'occasion de lire les souvenirs de la fille de Staline et de Nadiejda, et la fille de Staline affirme que Nadiejda a été étranglée. Alors, a-t-elle été étranglée? S'est-elle suicidée? Le mystère reste entier. Et au fur et à mesure que Staline s'installe dans le pouvoir, il va instaurer un système qui s'est perpétué après lui, le système de la réécriture de l'histoire. Je vais prendre un simple exemple. Un des chefs du NKVD, du KGB de l'époque, il s'appelait Yezhov, avait été fusillé pour traîtrise. Bien, ce qui est étonnant, c'est que dans les musées de l'histoire de l'URSS, il y avait des photos de Staline avec Yezhov du temps où il était en charge du NKVD ou KGB. Et ces photos ont été retouchées pour qu'on ne voit plus à côté de Staline le personnage de Yezhov. Je vous prends un autre exemple. Tous les Russes un peu cultivés de l'époque qui achetaient la grande encyclopédie de l'Union soviétique avaient beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personnalité du régime disparaissait, éliminée par les purges, ils recevaient chez eux des nouvelles pages à coller sur les anciennes pour dissimuler ce qui avait été marqué. Il y a eu la même chose plus tard, d'ailleurs, je vous signale, avec Khrouchtchev. Du temps où Khrouchtchev était secrétaire général, il avait droit dans l'encyclopédie à 3 ou 4 pages. Après 1964, lorsqu'elle a été à son tour éliminée, il avait droit à un tout petit paragraphe. Imaginez-vous, vous avez une encyclopédie chez vous et régulièrement vous devez la modifier en fonction de l'histoire. Modification de l'histoire, je vous disais, ou alors silence sur certaines choses. Par exemple, lorsque Staline s'est lancé à corps perdu dans la collectivisation des terres, de nombreux paysans, plutôt que de céder leur au singulier, leurs vaches ou leurs 2 ou 3 moutons, préféraient les abattre. Il y a eu une quantité de bétail abattu, une quantité considérable. Les paysans aussi s'agitaient. Il y avait des ouvriers, des sabotages qui étaient organisés. Et surtout, il y a eu une chose Ne pouvant survivre à la campagne avec ce système de collectivisation, les paysans ont commencé à affluer vers les villes. Et ce système, ce phénomène, s'est poursuivi d'ailleurs de façon étrange après la chute du régime soviétique. Beaucoup de paysans qui habitaient dans les environs de Moscou ont essayé d'aller s'installer à Moscou même. Et le maire de Moscou a utilisé un système qui, à ma connaissance, n'existe qu'en Russie, le système du passeport intérieur. C'est-à-dire que si vous habitez en Russie, vous avez un passeport pour vous rendre à l'étranger, et vous avez un passeport intérieur, c'est-à-dire que vous devez rester attaché à la région où vous habitez. Vous n'avez pas le droit de vous installer où vous voulez. Alors ce système de révolte, pudiquement passé sous silence ou alors présenté comme les derniers sursauts de la réaction, du capitalisme, etc., etc., a quand même fait 20 millions de victimes de ce qu'on appelait les koulaks, qui ont été déportés. Des populations entières ont d'ailleurs été déportées. Alors qu'est-ce qu'on appelait les koulaks ? Ben, les koulaks, c'est un terme très pratique. Un paysan qui possédait un petit peu de terre, une vache ou deux, quelques moutons, était déclaré koulak. Il devait donc tout donner au kolkhoz et lui-même se retrouver sans rien. Imaginez en France, avec les problèmes actuels de l'agriculture, comment cela pourrait se traduire. Nous arrivons donc peu à peu en plein règne de Staline et malheureusement en plein règne de la terreur. Je vous propose une deuxième pause musicale.
Malinka Maya.
Nous retrouvons Staline, disons, à la fin des années 20, vers 1929-1930. Et à cette époque-là, il crée un organisme dont beaucoup de gens connaissent le nom sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Je veux parler du goulag. Alors, le goulag, si on prend le mot russe, en réalité, ça veut dire direction générale des camps. C'est-à-dire, c'est là où on envoyait les gens qui n'avaient pas été fusillés, bien sûr, et qui passaient là des années, parfois sans savoir combien de temps ils allaient exactement y passer. Le mot est devenu courant en français après le livre, à l'apparition du livre de Solzhenitsyn, L'archipel du goulag. Mais c'était quand même un truc assez extraordinaire, parce qu'il y avait d'un côté la police politique qui menait le pays, en cheville avec le goulag, et au milieu il y avait les soviétiques pris entre deux tenailles et qui ne pouvaient échapper à ce marteau-pilon qu'était le régime. On aura de la peine aujourd'hui à imaginer à quel point Staline avait une aura auprès de certaines personnes en Occident. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une réflexion, un titre, un des nombreux titres, mais un titre de l'Humanité, un titre qui date de 1950. L'Humanité, je vous rappelle, étant le quotidien du Parti communiste français. Et Staline était désigné l'homme que nous aimons le plus au monde. C'est quand même assez extraordinaire et, à notre époque, plutôt incompréhensible. Mais bon, il y a peut-être des leçons à prendre de ce fameux culte de la personnalité. Staline a aussi instauré un système de course en avant, c'est-à-dire que lorsque les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il poursuivait dans le même sens. Et il voulait que l'URSS devienne un pays industriel. C'était donc la course à l'industrialisation. Et c'est là qu'il a réussi à forger un des mythes les plus durables du stalinisme, le stakhanovisme. Stakhanov, c'était un ouvrier qui, paraît-il, aurait rempli 35 fois la norme fixée dans une journée. On sait aujourd'hui que c'était très habile montage et qu'en réalité Stakhanov n'était pas seul pour faire cet exploit, mais on s'est servi de Stakhanov comme d'un symbole. C'est-à-dire que pour avoir l'espoir d'être reconnu dans la société soviétique, il fallait absolument agir comme Stakhanov. Il y avait aussi une chose à quoi tenait beaucoup Staline, et pour cause, c'était la construction du socialisme dans un seul pays. Je rappellerai simplement que Trotsky, lui, pensait que la révolution, pour réussir, la révolution communiste, devait avoir lieu dans tous les pays du monde. C'est un des points sur lesquels se sont heurtés Trotsky et Staline. Alors, les trois piliers, c'était la collectivisation des terres, l'industrialisation forcée et le socialisme dans un seul pays. Et c'est là qu'on a vu apparaître ce qu'on a appelé les plans quinquennaux. Plan quinquennal, c'est-à-dire un plan pour 5 ans, un plan de développement économique pour 5 ans, tout en sachant qu'il était obligatoire, si on ne voulait pas passer devant un peloton d'exécution, il était obligatoire de remplir le plan en 4 ans et parfois en 3 ans. Conclusion ? Oh, elle est assez facile à trouver. Quand les gens n'arrivaient pas à remplir les normes, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils trichaient sur les statistiques. Et c'est ainsi que pendant plus de 50 ans, en Occident, on a vécu avec des statistiques faussées et on a loué un système qui donnait des chiffres entièrement faux et gonflés à outrance. Et je voudrais, avant d'aborder le problème de la grande terreur, simplement citer 2 chiffres. 3 chiffres. Ce qu'on appelait la Grande Terreur, c'était entre 1937 et 1938. Ça a duré à peu près 15 mois. On a calculé qu'il y a eu 1600 morts par jour. En tout, 725 000 victimes qui ont disparu totalement et dont le nom même a souvent été effacé des registres. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur 106.8 à Chartres.